Vous êtes avec SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
C'est avec grand plaisir que l'on a l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Imbert, dans les studios à nouveau avec nous. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois à SBS.
Bonjour Christophe, c'est toujours un plaisir.
Merci. Alors cette fois-ci, on va parler des peuples premiers et de ce qui se passe aujourd'hui autour de la diplomatie française et de l'intérêt qu'il peut y avoir autour des peuples premiers et de cette relation qui, au final, elle est très longue. Elle va même au-delà de la création du pays, de l'Australie. La France a été présente sur les terres australiennes depuis très longtemps.
C'était effectivement un point qui est à la fois peu connu, mais qui témoigne de l'attachement profond et des relations entre la France et l'Australie depuis plus de deux siècles, puisque on connaît souvent l'expédition Baudin en 1800, mais on connaît peut-être moins. Il y a eu l'expédition Louis de Saint-Aloarn, il y a eu aussi celle très importante de la Pérouse, et puis peut-être plus encore signifiante, en tout cas j'ai eu l'occasion personnellement de l'éprouver, qui est celle de Bruny d'Entrecasteaux, qui en 1791 est arrivé sur les côtes de la Tasmanie à la recherche de l'équipage de la Pérouse, qui avait disparu en 1788, et qui a eu, comme beaucoup d'expéditions, en fait, qui avait une vocation scientifique de découverte et de rencontre. Et donc, il y a eu pendant trois ans des échanges très soutenus avec les Palawas en Tasmanie, qui ont donné lieu à la fois à des études, à un matériel absolument extraordinaire qui a été collecté en termes d'archives, notamment dans les archives de ces expéditions, un dictionnaire de près de 500 mots. Qui est quelque chose d'original. Nous en avons fait, puisque les archives de des expéditions d'Entrecasteaux, c'est plusieurs milliers de pages. Plusieurs centaines de pages traitent de l'Australie. Et en son sein, donc, on avait un matériel peu exploité. Et je dois dire que lorsque la ministre de des Affaires étrangères est venue en décembre, nous avons remis une copie numérisée à l'Australie de ces archives qui vont être traduites et puis servir pour beaucoup de chercheurs à développer la connaissance des peuples premiers depuis de cette époque de 1791-1794.
Parce qu'à cette époque-là, la France est pas arrivée ici dans un esprit colonialiste, contrairement à d'autres pays qu'on va pas nommer. Et la France est vraiment dans une optique d'expédition, de comprendre le monde qui est aux alentours, au-delà des mers.
Sur l'expédition d'Entrecasteaux, l'expédition Baudin, c'est d'abord une expédition comme celle de la Pérouse. Ce sont des expéditions qui visent à repérer, à explorer ces continents du Pacifique, ces îles, etc., qui sont encore inconnus, les cartographier, en ramener en fait une compréhension de la faune, de la flore, des habitants qui y sont. Et donc il y a aussi des débats entre scientifiques et navigateurs au sein même de l'expédition. À chaque fois, c'est toujours très intéressant. Mais ce qui a permis aussi de ramener une description de la société et des rencontres qui sont parvenues jusqu'à nous, avec des objets parfois retrouvés dans des stockages qui n'étaient pas les bons et qui permettent de redécouvrir et d'initier aussi à travers cela un travail de mémoire, car ce qui est important, c'est que le passé éclaire l'avenir et nous aide à nous projeter vers le futur. Alors nous avons d'ailleurs il y a un an commencé à la mise en place d'une commission franco-australienne sur la restitution des restes humains en le faisant selon la volonté des parties, y compris les populations aborigènes, pour que cela se fasse. Donc c'est en cours. Donc ce sont, le passé éclaire toujours le présent. On dit souvent le passé saisit le présent. Et pour nous, c'est extrêmement important de travailler ensemble pour le futur, mais en s'appuyant sur nos racines communes.
Et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu en arrière, il y a eu en France, il y a aussi des choses qui sont devenues presque tellement communes qu'on pense que c'est vraiment des choses françaises. Si vous êtes dans le sud, si vous êtes vers Nice ou Monaco d'ailleurs, le mimosa par exemple, le mimosa c'est une fleur qui vient d'ici, qui a été ramenée sous Napoléon pour Joséphine, je crois. Ça pullule dans le sud. Pourtant, il n'y a pas plus français que le mimosa. Et pourtant, c'est pas du tout français le mimosa à la base. Il y a plein d'exemples comme ça.
Oui, non, mais c'est cette mondialisation qui s'est construite par des navigateurs entreprenants qui ont ramené des plantes, qui ont parfois ramené un peu plus que des plantes. Enfin, ouais. Je veux dire, il faut aussi être capable de voir son histoire sans filtre, y compris dans ses aspects qui ont pu être plus négatifs. Mais en ce qui concerne les expéditions qui ont eu trait à l'Australie, elles ont été quand même majoritairement scientifiques et culturelles de découverte. Et je crois que c'est un élément qui est extrêmement important pour travailler ensemble aussi sur le futur et prolonger cette tradition d'échange qu'il y a eu. Et je dois dire, si je peux évoquer une anecdote, qui est, j'ai eu le plaisir d'aller avec Greg Hammond et d'autres universitaires sur les lieux du jardin botanique créé par l'expédition d'Entrecasteaux, donc à Recherche Bay en Tasmanie. Et je dois dire que nous sommes assis, nous avons à ce moment-là relu les descriptions des rencontres avec la population local dans 1791. C'était un moment extrêmement fort d'émotion. Nous sommes repartagés finalement un peu des facsimilés de nos créations artistiques les uns et les autres. On s'est pris dans les bras parce qu'en fait ça nous est venu comme ça. Et je dois dire que c'est là où l'éclairage en fait du passé qui nous saisit était proprement présent. Et je me suis dit qu'en faisant cela, il fallait que nous donnions aussi un tour à notre coopération culturelle qui prenne en compte cette histoire et cette volonté de travailler avec l'ensemble des peuples d'Australie.
Est-ce que c'est dans des moments comme ça qu'on sent que vous faites partie d'un maillon, d'une chaîne, de la relation justement entre deux pays qui sont à la fois physiquement mais économiquement énormes. Enfin, c'est des pays très présents sur la place mondiale. Aujourd'hui, vous êtes le maillon d'une chaîne qui a duré depuis des centaines d'années. Ça vous est venu, ça, à l'esprit quand vous étiez assis à Recherche Bay et que vous dites, bon, bah, au final, je fais partie
On se sent vraiment... oui, on sent physiquement. Enfin, juste, ça paraît comme ça à la radio, dire sur un lieu, on se retrouve, il y a quelques vieilles pierres, etc. Dans ce lieu magnifique qui est Recherche Bay, donc d'ailleurs du nom d'un des deux bateaux de l'expédition Entrecasteaux, donc le bateau Recherche. Mais on se sent à ce moment-là un peu dépositaire de ce passé, et donc comme un maillon, eh bien, on se doit aussi de transmettre aux générations futures ce travail. Et si à un moment il y a eu ce moment d'amitié et d'échange et de découverte, il faut que dans notre action présente, on puisse aussi le faire perdurer. C'est le sens du travail que on souhaite initier avec les peuples aborigènes et notamment dans notre coopération artistique, culturelle, à travers la Fondation franco-australienne. Donc c'est un élément extrêmement important de notre action avec l'Australie.
Mais cette action, elle est présente depuis un bon moment. Si vous avez eu la chance, vous public, d'être allé par exemple à la Tour Eiffel, un des plus gros monument que vous voyez, c'est le musée des arts premiers, et il y a tout un toit qui est fait en art aborigène. C'est vraiment un échange, plus que justement la France qui vient redonner ou donner des leçons, ou etc. C'est vraiment un échange entre les deux pays, main dans la main.
Absolument, et on veut par exemple le domaine, nous organisons à l'ambassade une journée extrêmement importante d'études, de travail ensemble sur cette relation culturelle, notamment avec les aborigènes et la création artistique qui en découle. Et par exemple, nous aurons un artiste qui aura gravé deux arbres dans l'ambassade, ce qui est une première. Et ce même artiste a été invité et sera hébergé par le musée des arts premiers au Quai Branly pour graver à son tour aussi un arbre là-bas dans le musée. Donc vous voyez qu'en fait cette correspondance entre ce musée que vous évoquez, qui est absolument magnifique, et ce que l'on fait aussi à l'ambassade, se retrouve dans notre coopération culturelle pour faire vivre une tradition, la faire découvrir. Et puis toujours le souci, c'est on se tourne le passé parce que ça nous éclaire sur le futur. C'est comment est-ce qu'on va mieux travailler ensemble et faire découvrir à une audience et un public plus large l'inspiration, la création artistique que l'on trouve et qui est extrêmement foisonnante dans notre pays de résidence, l'Australie.
Cette relation, elle est emblématique à plein de niveaux. On sait qu'il y a eu des travaux, il y a débat. On va pas revenir sur les méandres de l'action autour des sous-marins, etc. Mais il y a aussi des côtés positifs dans cette relation. Il y a deux Français qui ont été vraiment des héros récemment en Australie, qui ont été mis vraiment en avant. Vous avez pu les rencontrer, ou en tout cas échanger avec eux. Ça, sans dire que ça fait partie de ça, mais c'est les histoires positives, même au sein d'un drame. Tout ça, c'est des histoires positives que la France a le droit d'être fière, d'ailleurs, de ces moments-là.
Je dois dire que nos deux concitoyens ont eu une action absolument admirable.
Absolument. Ouais.
Comme d'autres citoyens australiens ont eu. Hein, c'est dans ces moments-là que se révèle l'âme humaine et la volonté, en fait,
au-delà
des pays. En fait, c'est une réaction d'humain face à une violence. Moi, je peux pas dire ce que à titre personnel, j'aurais pu faire. Bah, il se trouve que eux, ils ont pris leur courage à deux mains, comme d'autres, et ils sont intervenus, et ça a sans doute permis d'éviter aussi d'autres morts. Donc, en fait, on les en remercie. Nous sommes très sensibles aussi à l'attention qu'a porté l'ensemble des Australiens, le gouvernement, le Premier ministre à leur endroit et notre ministre des Affaires étrangères, notre gouvernement a eu l'occasion aussi de les féliciter, de les remercier de leur action. Et par ailleurs, ils ont aussi le souhait de prendre cet acte comme un acte aussi de participation citoyenne, mais vraiment avec la modestie
absolument,
qui s'y est.
Nous, on les a eus à l'antenne. On a fait 20 minutes d'interview avec eux. Et ce qui était marquant, c'est le côté humble des choses. Ils n'ont pas du tout voulu en faire trop. Et ce côté aussi, il nous a parlé d'un moment où il dit, Damien, il dit, ça fait tellement longtemps que j'attendais cette résidence permanente, mais aujourd'hui, je peux pas la célébrer. Et j'aurais jamais cru que ce soit au terme d'un drame que j'allais l'avoir. Et qu'en fait, il a ce côté à la fois content, fier de ce qu'il a fait, mais il y a quand même un goût très 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 amer derrière, en fait. Donc ce côté humble est très intéressant.
Et je sais pas, et on est dans la période de célébration des Anzac, c'est vraiment un élément extrêmement important, c'est que au fond ce sont il y a pas plus pas d'événement plus dramatique que ce qui a été la boucherie de la Première Guerre mondiale.
Ouais, tout à fait.
Je veux dire, c'est 15% des appelés en Australie décéderont directement, je ne parle même pas des blessés. Pour la France, ça monte à 18%. Ce sont des générations entières qui ont été sacrifiées, qui ont fait le sacrifice de leur vie. Et pourtant, ce qu'on célèbre à travers ça, je veux dire, c'est justement l'héroïsme quotidien, simple, la dévotion, en fait, finalement, de ces jeunes générations, et que leur courage, leur investissement doivent éclairer aussi notre comportement d'aujourd'hui. Et je vois beaucoup de correspondances aussi dans ces actes courageux, où, en fait, et nous sommes remplis d'histoires absolument de magnificence humaine à travers des temps dramatiques.
Ouais, donc, tout à fait.
On a besoin aussi de personnages comme eux, qui nous rassure sur l'âme humaine, nous fait voir aussi le futur avec optimisme, car même dans les temps difficiles, on trouve cette lueur d'humanité et qu'il nous appartient de faire vivre.
Et sur la jeunesse aussi, hein, parce que c'est vrai que vu d'un certain âge, on peut aussi avoir certaines visions sur la jeunesse et de voir que la jeunesse a aussi des valeurs comme ça, c'est toujours un côté intéressant.
Ouais, mais si... ça, Christophe, c'est parce que vous comme moi, on vieillit, donc on a l'impression que c'est ça. Mais quand on était jeune, on devait sûrement être pareil.
Ça devait être ça, c'est vrai qu'on a la barbe un peu plus grise aujourd'hui, mais si on revient sur les peuples premiers, c'est intéressant que la France justement s'intéresse, voilà, pour faire un pléonasme, s'intéresse à ça, parce que il y a eu tous des questions autour de l'Australie, de l'intégration, etc. Mais aujourd'hui, c'est important pour la France de focaliser sur les vraies racines du pays et de vraiment remettre en valeur ce que la France a pu faire à l'époque pour rentrer en connaissance, pour rentrer en contact avec ce peuple. Pas encore une fois, pas pour forcément le coloniser, mais pour rentrer en contact et apprendre par rapport à ce peuple. C'est très important que cette relation existe encore aujourd'hui.
C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, la journée du 2 mai, que j'ai souhaité organiser à l'ambassade de France, aura une vocation à la fois d'écoute et d'échange d'artistes aborigènes, d'universitaires, pour que on rentre en fait progressivement, on s'immerge dans ces cultures, que l'on aille vers une intercompréhension mutuelle, puis d'imaginer ensemble les pistes de travail en échange culturel. On a évoqué le Quémanli, mais il y a beaucoup d'institutions qui souhaitent aussi travailler avec des artistes. Ça sera sans doute sous l'égide en grande partie de notre fondation franco-australienne présidée par Myriam Boisbouvier-Wiley. Et À travers ça, nous aurons finalement une finalisation, une reconnaissance de ce travail commun à travers un acknowledgement of the country que nous ferons pour la première fois à l'ambassade de France. Il était pour moi symboliquement extrêmement important d'avoir cet acte de reconnaissance, mais qui s'inscrive dans un processus éclairé par nos amis et ces échanges profonds tout d'abord, puis qui s'inscrive dans une dynamique de travail en commun.
Il sera fait en deux langues? L'acknowledgement to country ou que en français?
Non, absolument, dans les deux langues.
Dans les deux langues, ouais, d'accord. Okay. Donc ça, c'est aussi une marque de respect. Mm. Vous ne le faites pas qu'en français, vous le faites aussi à l'intégration dans les deux langues.
Je dirais même dans les trois langues. Hein, quand on se met.
D'accord, dans les trois langues. vous voulez rajouter autre chose sur cette relation, justement, et sur le... Parce que c'est, encore une fois, vous êtes un maillon de la chaîne, mais c'est aussi une nouvelle graine qui est mise dans un nouveau type de relation. La fondation, vous en avez parlé, qui a été créée assez récemment, et cette implication que la France a, justement, à mettre à la fois des moyens aussi derrière. C'est pas simplement on crée une association et ça va se passer comme ça. Il y a des vrais moyens financiers. Alors, c'est pas juste des mots.
Sur cette fondation, c'est effectivement un des plus gros investissements en action culturelle extérieure de la France qui se verra en fait la fondation dotée par la France d'1 million d'euros, donc qui viendra ensuite être abondé par des partenaires philanthropes. Investisseurs australiens qui viendront aussi agréger des initiatives des institutions culturelles françaises et australiennes. Mais je dois dire, même au-delà, puisque cette fondation franco-australienne sur les échanges culturels a une vocation à s'adresser à l'ensemble de l'Indo-Pacifique. Mm-hmm. Et c'est là aussi que ce travail avec les populations aborigènes est important, car on voit bien qu'il y a un regain aussi de l'intérêt en fait de l'art, avec la Triennale des Arts qui a lieu cette année à Hawaï, la prochaine aura lieu à Nouméa. Donc on a un travail aussi dans tout l'Indo-Pacifique de réflexion, de travail sur ces cultures, sur leur projection sur le futur, pour en faire quelque chose de vivant et que l'on puisse partager auprès des populations, aussi bien en Australie, et un gros travail sur l'identité est engagé en Australie, c'est le moins qu'on puisse dire. On a aussi ce travail à faire en France, on a toujours des leçons à apprendre aussi. Quand on regarde les autres, parfois on se regarde soi-même de manière différente, et on y apprend beaucoup. Donc c'est aussi dans cette perspective, c'est un pays l'Australie qui a fait un pays d'immigration, aussi comme la France, qui s'interroge sur son identité. Notre pays aussi, souvent, s'interroge sur son identité. Et ce qui fait le vivre ensemble commun, ça passe aussi beaucoup par ce travail et ces échanges culturels. C'est le sens de cette action que notre gouvernement soutient et qui repose sur d'excellentes volontés, comme tous ceux qui ont accepté de s'engager à travers cette fondation franco-australienne pour les échanges culturels.
Eh bien, merci d'être venu nous annoncer tout ça au micro de Radio SBS.
Un grand plaisir. Merci beaucoup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.